Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International. On y passe beaucoup de temps en ce moment, vous avez dû le remarquer, c'est matin et soir, deux émissions, mais il y a des matchs passionnants. Nous commencerons cependant l'émission par le podium du prix Marc Vivien Fauhé. Ce sera dans quelques secondes. Nous vous donnerons les noms par ordre alphabétique des trois joueurs susceptibles d'être et de finir lauréat de ce prix Marc-Vivien Fauhé qui, je vous le rappelle, désigne le meilleur joueur africain du championnat de France de la Ligue 1. Trois noms donc parmi les 11 distingués sur la liste qui vous avait été révélée il y a quelques jours sur l'antenne. Et le nom du vainqueur sera divulgué seulement le lundi 13 mai au matin sur RFI bien sûr. Dernière demi-finale européenne de la semaine et ce soir en Ligue Europa, l'OM reçoit l'Atalanta Bergame, le stade Vélodrome qui n'aime rien tant que les soirées européennes, devrait être d'un grand soutien à son équipe qui n'est pas vraiment favorite sur cette demi-finale face au club italien. Mais impossible n'est pas marseillais, dirait-on. Et c'est sur la scène européenne ce match et nous y rejoindrons là-bas à l'Europe. Et à Marseille, Thomas Saint-Léger, notre envoyé spécial. Le PSG battu hier soir à Dortmund 1-0, un petit Paris Saint-Germain. Mais l'entraîneur Luis Enrique se dit certain de la qualification en finale au match retour. Faut-il le croire ? Et pourquoi Kylian Mbappé a-t-il été hier encore fantomatique. Le débat a animé notre bureau avant l'émission. Je pense qu'il l'animera toujours après. Ça vous fait bien sourire, Hervé Penaud ?
Oui, bonjour à tous. Quel plaisir. J'ai hâte de connaître les trois. Même Mbappé, il ne sera pas. Et fantomatique, je trouve le terme un peu dur, ouais, bon, on va dire.
Ben, votre journal l'a sévèrement noté, hein, si on regarde. Mais
absolument.
Bien.
Absolument. Sévèrement, moins sévèrement que Dembélé.
Oui, certes, mais c'est vrai que on a l'habitude de voir Kylian plus haut dans les notes. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Je vous vois sourire, vous aussi. On aura plein de choses à discuter. Et puis alors, alors, il n'a jamais été pris Marc-Vivien Fauhé.
Trouve que c'est injuste.
Il en aurait
voté pour toi.
C'est sévère et injuste.
On est tous d'accord et on regrette. Mais il faudrait en faire un d'honneur pour
c'est
vous.
C'est ce que je voulais dire, c'est que j'espère qu'à un moment donné, vous allez vous rattraper quand même.
Oui, c'est promis, on le fera. On le fera. Bonjour Benjamin Moncandjo.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis alors, nous avons le chef d'orchestre du prix Marc-Vivien Fauhé qui est dans ce bureau. Chef du service des sports. Bonjour Christian Jousset.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et Herbert Van Jousset, Marianne.
Oui, oui, n'est-ce pas ? Il a sa baguette pour vous faire bisquer, pour vous faire attendre surtout. On y va tout de suite. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Marc-Vivien Fauhé, ambassadeur de l'Unicef au Cameroun.
Toujours une pensée chaque année pour Marc-Vivien Fauhé qui aurait eu, il y a quelques jours, je crois que c'était 48 heures,
hier, hein.
Il aurait eu 49 ans ce joueur, cet international camerounais, notamment ancien Lensois. Alors c'est un jour important pour tous les joueurs africains actuels de notre championnat hexagonal, car nous allons donc révéler les noms des trois joueurs arrivés en tête du classement de notre 16e saison, n'est-ce pas ?
16e édition.
16e édition,
oui.
De ce prix Marc-Vivien Fauhé, RFI France 24, à l'issue du vote du jury. Trois noms se détachent. En attendant de révéler le nom du lauréat le 13 mai, Christophe Zousset, vous allez nous les révéler par les lettres alphabétiques, bien sûr. Hein, et ça ne voudra pas dire que ce sera dans l'ordre. Et on commence par la lettre A, n'est-ce pas ? L'alphabet, c'est ça ?
Oui, je crois que ça commence par un A, oui.
La lettre A.
Marc-Vivien Fauhé, ambassadeur de l'Unicef au Cameroun.
La chose qu'on peut faire, c'est le travail, la détermination. Et forcément, en tant que neuf, c'est marquer des buts. Donc, j'aime beaucoup être proche de la surface. C'est quelque chose que j'ai en moi.
Bobby, allume la flamme.
Savoir ce que ça fait de gagner, je pense que c'est très important.
La lucarne.
Et je suis super fier d'être ici.
La lucarne du Gabonais. Grâce au meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang.
Tous les Africains qui sont passés par ici et ont laissé leur trace. À mon tour, tout simplement.
Sa voix et son nom à l'international gabonais, Christophe Jousset.
Oui, il avait quitté la Ligue 1 en 2013 avec le prix Marc-Vivien Fauré sous le bras. Et depuis, il a fait un grand tour d'Europe, Dortmund, Arsenal, Barcelone, Chelsea.
Pas des petits clubs.
Et non, et un beau tour d'Europe. Et il est revenu en Ligue 1 l'été dernier. Et dès son retour, il est devenu l'homme fort de l'Olympique de Marseille toute la saison. 14 buts, 8 passes décisives, une série en cours, parce que la saison n'est pas encore terminée. Elle touche à sa fin quand même.
Il paraît qu'il joue ce soir même.
Oui, je pense qu'ils ont besoin de lui. C'est même le deuxième joueur le plus décisif de Ligue 1 hein, sur le total buts et passes décisives après Kylian Mbappé. Pierre-Emerick Aubameyang, donc l'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille.
Belle histoire donc pour Pierre-Emerick Aubameyang, il est en tout cas sur le podium. Deuxième lettre de l'alphabet ?
Allons-y.
Hein ? La lettre B.
Marc-Vivien Fouet, ambassadeur du ministère au Cameroun.
On va pas se mentir, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Je suis pas là pour me tourner les pouces non plus, je suis là pour être performant et c'est bien beau d'avoir des étoiles dans les yeux, mais on est là aussi pour gagner. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser deux grands rêves qui étaient de jouer pour l'Algérie. Mais pour moi, mon rêve de base, c'est de jouer à Lille. Jouer dans ma ville, représenter ma ville, rendre fier mes proches.
Un Lillois international algérien, Christophe.
Nabil Bentaleb, qui a rayonné cette saison au milieu de terrain de Lille. Son entraîneur l'a même désigné au cours d'un point presse comme son meilleur joueur, tout simplement. C'est celui qui régule le jeu du LOSC, le club nordiste, qui lutte actuellement, toujours, pour une place sur le podium du championnat et donc pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Formé à Lille, il rejoint en fait le Nord, son Nord natal, après la descente d'Angers l'été dernier. Et c'est un excellent coup des Lillois sur le marché des transferts puisqu'ils ont acheté Nabil Bentaleb 4,5 millions d'euros seulement. C'est ce qu'on appelle rentabiliser son investissement.
De notre époque, ouais. C'est compliqué. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, Bentaleb, là, c'est pas la lettre C, mais on va découvrir le troisième de ce podium.
Marc-Vivien Fouet, ambassadeur du ministère au Cameroun.
C'est un but de Kofra et c'est une sensation unique. C'est une chose que j'essaye de travailler aussi à l'entraînement un petit peu. C'est des moments que tu te rappelles toute ta vie. Je pense que pour les supporters, il marquait un classique, ouais, tout le monde se rappelle. C'est spécial pour moi.
Alors, s'il a un petit accent espagnol aussi prononcé, cet international marocain, c'est parce qu'il est né et il a été éduqué en Espagne.
Oui, Achraf Hakimi, qui est fort, très fort, un défenseur avec des qualités offensives hors du commun. Titulaire au PSG, déjà assuré d'un nouveau titre de champion de France. Cette saison, certains considèrent que le Marocain a réussi d'ailleurs sa meilleure saison depuis son arrivée à Paris en 2021. Hakimi, qui est un prétendant incontournable au prix Fauré chaque saison. Il avait terminé sixième de la course au trophée en 2022, septième en 2023. Et donc, le Lion de l'Atlas obtiendra son meilleur classement, quoi qu'il arrive, puisqu'il sera sur le podium.
Entre-temps, il y a eu une Coupe du Monde et aussi une Cannes qui l'ont peut-être un peu mis sous les projecteurs. On va demander à nos amis quand même, qu'est-ce qu'ils pensent de ce trio ? Alors, il a failli sortir du studio, Benjamin, on l'a retenu quand même.
Il est resté pour nous.
Benjamin Moukandjo, ce trio vous semble-t-il logique ? Je sais déjà, vous allez dire non, expliquez pourquoi.
Non, c'est logique, d'autant plus que voilà, ce n'est pas la décision d'une seule personne, c'est la décision de plusieurs personnes, donc on va respecter
c'est un vote
on va respecter
de près
ce
80 personnes
hein. Oui. Même si souvent on a des préférences et puis on porte souvent des jugements différents, on a une vision totalement différente chacun les uns et les autres. Bon, moi peut-être que je j'aurais pas mis ce trio là, mais voilà, on va respecter la décision. Je pense que les 10 déjà qui étaient nommés, pour 11. Moi les 11, pardon, ils méritaient tous être définis dans ce trio, quoi.
Bruno Constant.
Ben moi, il me satisfait parce que je crois que c'est mon trio, hein, ouais. Sauf, je crois que c'est ça. C'est visé pour les trois. Non, moi, je suis content parce que, surtout pour Ben Taleb, parce que c'est un joueur qui n'a pas forcément de stats. Je crois qu'il n'a qu'un but cette saison.
Ça, c'est votre numéro 1. Hein.
Ouais, et c'est un
sans
joueur.
Sans trahir le secret du vote, bien entendu.
Oui, bien sûr. Et c'est un joueur qui est incontournable dans la bonne saison du LOSC. Et moi, j'ai envie qu'on récompense des joueurs qui n'ont pas forcément des stats, mais qui sont les meilleurs joueurs de leur équipe parce qu'ils apportent de l'équilibre. Après, Aubameyang, je ne sais pas si Hervé sera d'accord avec moi, mais je trouve qu'il a un tout petit peu éteint le débat concernant le départ d'Alexis Sanchez. Et ce n'était pas facile de le faire parce qu'il arrive pour lui succéder. Ce n'est pas tout à fait le même profil, avec une réputation de deux saisons compliquées avant d'arriver à Marseille. Et puis, il a des stats impressionnantes dans une équipe qui est en difficulté. Ça veut dire que ça reste un grand attaquant. Et puis, Hakimi, bah, il est quand même malgré tout porté par le PSG. C'est un peu plus facile quand on joue au PSG de briller, qu'on va être champion de France, qu'une équipe qui joue le maintien ou est dans le ventre mou.
Hervé ?
Oui, alors c'est pas tout à fait mon trio non plus, mais je comprends tout à fait. Moi, franchement, parce que moi-même j'ai hésité, parce que la personne que j'avais pas mis dans le trio là, qui est Aubameyang, j'ai longtemps hésité, parce que je voulais juger que sa saison en Ligue 1, il a eu quand même beaucoup de mal au début. Les 3, 4, 5 premiers mois, alors il est énorme en Ligue Europa, il est énorme sur la fin, parce qu'en plus c'est lui qui fait les différences, mais dans un effectif qui n'est pas non plus au top niveau, hein, faut pas l'oublier, parce qu'on n'a pas un Marseille qui est dans les 5 premiers du championnat. Hein.
Et c'est sans doute pour ça peut-être qu'on le remarque plus
j'avais un peu cette sensation de me dire... Est-ce que je vais le mettre ? Parce qu'il y avait un autre joueur, moi, qui me plaisait, c'était Singo. Je trouvais qu'il avait fait une...
On avait le même, alors.
Ah, ouais. Je trouvais qu'il avait fait une super saison.
Il était souvent dans les discussions, notamment le jour où les nominés avaient été annoncés, il y avait beaucoup de débats autour de Singo.
Oui, voilà, donc il fallait à un moment, il faut bien faire un choix. Donc, et le choix du trio, je le comprends tout à fait, parce qu'Aubameyang, que ce soit, il va qualifier en plus Marseille. Parce que même si on parle que de Ligue 1, on ne peut pas oublier le reste, inévitablement. Parce que, voilà. Donc moi, je suis resté un peu plus concentré sur la
même
Ligue 1.
Même si Aubameyang n'était pas à la CAN, par exemple. Et c'est vrai qu'on regarde aussi leur carrière internationale. National.
On est toujours un peu sous influence. Voilà, ouais, mais on récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 pour ses prestations, ses performances
exactement.
En Ligue 1.
Et il faut dire qu'Aubameyang, ça reste un monstre absolu. Il est parti, il a eu le trophée. Je ne sais pas ce qui se passera, pourquoi il va revenir là. Mais toujours est-il qu'il a largement sa place dans les trois. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote, hein, puisqu'on est entre nous.
On est là pour ça.
Je prenais le train l'autre jour, je tombe sur Basile Boli. Et je lui
il y avait beaucoup
ça.
D'Africains d'ailleurs dans ce train-là.
Absolument.
Hein, on a vu la photo sur les réseaux sociaux.
Mais comme Africain, mais c'est un peu vrai. Donc je discute avec lui. Je dis, tu sais, moi, j'ai pas mis Aubameyang. Oh là, il a failli m'étrangler. Il m'a dit, je vais voir Annie, je viens tout de suite au studio. Comment tu peux pas mettre. Ah, il me dit, mais il a fait une saison incroyable, un état d'esprit remarquable, etc. Et bien après coup, je me suis dit, quand même, j'aurais dû le mettre. Donc vous voyez, parce que des éléments supplémentaires.
Il faut l'appeler Christophe pour changer, non mais... T'aurais pu changer.
Ah non, c'était terminé.
Attendons de savoir quel est vainqueur.
Non,
on triche pas.
Mais Hakimi, je trouve que c'est vrai qu'il a quand même ce qu'il a fait cette année du côté du Paris Saint-Germain. Parce qu'au début, les premiers mois de la saison, contrairement, alors là je parlais du côté de Marseille, tout le monde parlait du côté fort qui était Dembélé, Hakimi. Tout le monde disait il a trouvé quelque chose avec Hakimi, Dembélé.
On va y revenir, mais on l'a pas vu hier soir.
On y reviendra tout à l'heure. Mais Hakimi, il frappe vraiment à la porte. Et Ben Taleb, effectivement, c'est l'homme de l'ombre qu'on ne voit pas. Pour suivre Lille, je peux vous dire qu'il est monstrueux. D'ailleurs, au début de saison, il n'était pas là parce qu'il a mis un peu de temps avant de venir. C'était une blessure qu'il avait. Et quand il est arrivé, ça a tout changé parce qu'il a une capacité à déplacer le jeu, des ouvertures de 40-50 mètres. C'est vraiment moins spectaculaire, évidemment, que d'autres joueurs. C'est même moins spectaculaire qu'Hakimi, qui est pourtant latéral, mais qui vous fait des chevauchées qui marque votre rétine, inévitablement. Donc, super choix des gens qui ont voté. Bravo, Christophe.
Bravo au jury.
Benjamin, pourquoi Hakimi, vous n'êtes pas d'accord sur son année, disons, parce que...
Non, c'est pas une question de son année, effectivement, comme a dit Bruno. Bien sûr qu'il a... Il fait une grande
qualités.
Saison, il fait une très très belle saison. Et encore, comme a dit Bruno, et là, c'est où je vais être d'accord avec toi, le fait que Hakimi soit au PSG dans une équipe qui est constituée, une grande équipe avec autant de joueurs, j'ai pas envie de dire que c'est plus facile pour lui d'être plus performant qu'un joueur qui est dans une équipe.
Voilà,
dans une équipe
plus souvent.
Un peu plus moyenne.
Plus souvent et plus facilement.
En général, ce joueur qui est dans une équipe un peu plus moyenne avec moins de joueurs de qualité, quand il est à ce niveau-là, à égalité, pour moi, j'ai tendance à aller plutôt vers celui qui est dans ce club, entre guillemets, moyen que l'autre.
Est-ce qu'il y a moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a un grand écart entre le troisième et le quatrième? La bataille sur le podium, est-ce qu'il y a eu. Ou est-ce que les trois se détachaient vraiment et étaient au-dessus?
Oui, il y a un écart quand même. Hein. C'est pas l'année dernière entre Mbemba et Fofana, ils étaient vraiment au coude à coude jusqu'au bout. C'est Mbemba qui avait gagné finalement. Mais là, entre troisième et quatrième, il y a déjà un petit gap, ouais. Mais Benjamin, qui est un partisan donc d'Aubameyang dans le vote, est-ce que le fait d'être entouré par des joueurs dont la qualité est assez aléatoire, hein, globalement, Marseille a quand même fait une saison assez décevante. Est-ce que ça n'augmente pas encore un peu plus le mérite de Pierre-Emerick Aubameyang?
Ah oui, ouais. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Être à Marseille dans une équipe ou un championnat, pour moi, ils peinent, ils n'arrivent pas, ils ont changé d'entraîneur jusque-là, mais on voit quand même que même si Hervé disait tout à l'heure qu'il a vécu un début de saison très compliqué, il s'est fait même siffler par moments, et puis il y a eu ce déclic avec ce match en Europa League, et depuis on voit que Aubameyang, il est, voilà, pour moi c'est le meilleur joueur de Marseille, logiquement, et puis aussi, on est influencé aussi par ce qui se passe autour. On n'est pas que à regarder la Ligue 1, forcément on a quand même un regard sur ce qu'il fait en Europa League, en Coupe de France, tout ce qu'il joue, même s'il n'a pas fait la CAN. Mais pour moi, il a plus de mérite, Aubameyang, d'être dans une équipe moins forte et de marquer autant de buts.
Et c'est d'autant plus dur, moi, je trouve, pour lui, que contrairement à Alexis Sanchez, qui est quelqu'un qui peut décrocher, venir chercher le ballon, créer des choses, lui, il est quand même dépendant des passeurs, des joueurs qui vont le mettre sur orbite. Et je trouve que c'est là où il a fait, pour moi, une grande saison, malgré tout.
Ce qui est intéressant aussi, peut-être, avec Bentaleb, l'année dernière, on avait récompensé un défenseur qui était Chancel Mbemba dans la liste des autres lauréats de cette émission. On n'a pas eu que des buteurs. Et c'est intéressant, Bentaleb, aussi pour ça. Je pense à Fofana, il y avait eu Gaël Kakuta, qui ne sont pas des gens qui ne font que marquer.
Mais là, on a une liste équilibrée, puisqu'on a un attaquant, un milieu et un défenseur.
Et ça, c'est vrai que c'est bien aussi. Enfin, dans les votes, il y a une observation non seulement de ceux qui marquent des buts, mais aussi de ceux qui sont importants dans un groupe, quoi.
Ah oui, mais de toute façon, là c'est trois joueurs qui se détachaient. Hein. Alors, on peut discuter pour Hakimi, mais moi, je trouve que c'est ces trois joueurs, effectivement, qui étaient au-dessus. Alors, je rajoute, moi, Singo, parce que Singo, on en parle un peu moins, parce que là, c'est un défenseur central dans une équipe où il y a pas mal de stars aussi, donc c'est pas nécessairement de lui dont on va parler. Singo fait partie un parmi les autres, alors qu'effectivement, moi, Hakimi étant déjà au Paris Saint-Germain, c'est autre chose, on le voit tout le temps. Et alors, juste une petite chose, quand on me dit il peut briller parce qu'il est au PSG, encore faut-il y être. Oui, parce que la difficulté, c'est de pouvoir s'imposer dans un effectif comme ça. Le plus difficile, c'est d'être titulaire au Paris Saint-Germain, incontestablement. Donc ça veut dire que vous avez la qualité, le niveau pour le faire, ce qui n'est pas donné à tous les joueurs. Et Bentaleb, c'est bien sûr un effectif en dessous. Quand vous êtes titulaire à Lille, c'est moins fort, évidemment. Et puis Marseille, de la même manière. Mais il n'empêche que ces deux joueurs qui ont marqué le jeu de leur équipe. Effectivement, sur Aubameyang, il n'y a absolument rien à dire. C'est pour ça que je me suis tellement fait des nœuds au cerveau, j'aurais dû le mettre peut-être.
Il n'empêche. Il n'y a rien à dire sur les buteurs. Hein. Vous savez, les joueurs qui marquent énormément de buts, on trouvait difficilement quelque chose à dire. Et je pense que c'est bien aussi par rapport à ces trois joueurs et surtout le vote de Bentaleb et de Hakimi derrière. C'est pour montrer qu'on a une autre vision du football parce que pendant des années, on a récompensé que des buteurs. Aujourd'hui, ces gars, parce que c'est des hommes de l'ombre, c'est des joueurs qu'on voit très peu, on regarde très peu. Quand on regarde des matchs, on attend toujours celui qui va marquer le but. Mais souvent, on ne regarde pas d'où l'action part. Le tacle qu'il a fait derrière Hakimi pour sauver. Et la passe que Bentaleb va mettre. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'avoir pu se détacher de ce truc-là, uniquement les buteurs, c'est intéressant parce que Bentaleb, c'est un fantastique joueur. Je me rappelle, c'est Nabil hein, qui a longtemps milité pour que Bentaleb puisse quitter
l'autre Nabil.
Angers. Oui, Nabil Djellit. Oh yeah, oh yeah. Qui a longtemps milité, en tant qu'Algérien, bien sûr. Oh yeah. qui voulait absolument, qu'il a bien vendu. Il a même réussi, même moi, à me convaincre que Bentaleb était un magnifique joueur. En tout cas, il a eu raison, Nabil.
Christophe, résumons ce podium.
Alors, Aubameyang, Bentaleb et Hakimi. Alors, il faut dire quand même, dans l'hypothèse où chacun gagnerait, Pierre-Emerick Aubameyang, d'abord, ça serait un doublé, puisqu'on le disait, il a gagné en 2013. Pour l'instant, il y a juste Gervinho hein, dans l'histoire du prix, qui a été créé en 2009, qui a réussi un doublé. Mais il avait réussi deux années consécutives, 2010-2011. Voilà. Là, si Aubameyang gagne, c'est le grand écart.
C'est considéré comme un doublé ou pas?
C'est considéré comme un doublé.
Et avec deux clubs différents.
Et d'ailleurs, au passage, il deviendrait même le doyen des lauréats, si on peut dire. Le joueur le plus âgé au moment, 34 ans, presque 35, le mois prochain. prochain.
Alors s'il revient dans 10 ans dans le serait... de France, il y a une troisième fois. Là,
c'est tous les 10 ans. Et ça serait un doublé de l'OM aussi, par la même occasion.
Ah oui,
mmh. Exactement. Exactement.
Ce qui serait assez logique finalement, parce que c'est vraiment un club qui a accueilli tellement de
exactement,
super joueurs,
de joueurs africains. Mmh.
Mmh. Bah, qu'il l'a gagné... aussi avec André Ayou. Hein, l'OM a gagné avec André Ayou.
Et ça, c'était il y a 10 ans.
C'était il y a 10 ans, et puis avec Mbemba, enfin 9 ans exactement, et Mbemba donc l'année dernière. Mm-hmm. Ensuite, Nabil Bentaleb, s'il gagne, c'est une première pour l'Algérie, parce que j'ai regardé un peu les archives, trois fois l'Algérie a mis un joueur sur la deuxième place. Il y a eu Riyad Boudbouz. Ça, c'était en 2017. Il y a eu Islam Slimani en 2020, Andy Delors en 2021, mais jamais la première place. Et à chaque fois, il y avait du beau
monde
devant.
Je crois qu'Islam Slimani a eu le prix en 2020. Il n'y avait personne au-dessus. Ouais, ouais.
Ben, vous voulez que je vous rappelle le palmarès,
ah oui,
le podium de 2017. Donc, Riyad Boudbouz, il est deuxième derrière Jean-Michel Seri et devant
oui,
qui?
Oui, oui, vous n'avez pas voulu me donner.
Alors, moi, j'avais milité pour toi. Et je me souviens, on faisait des plateaux, il me disait non, bah, Moukoujo, j'ai dit mais si, il mérite.
Ouais, mais là, il va falloir, c'est une injustice. Hein,
Podium au prix faux, c'est quand même énorme déjà.
Non, ouais. C'est déjà bien.
Enfin, ah, bah oui,
c'est super.
Oui.
Ah, oui. J'ai été très content d'ailleurs de faire partir de ces trois-là, parce que bon, c'est que pour nous, en plus, en tant que Camerounais, c'est un trophée qui nous parle, et voilà, d'honorer d'ailleurs RFI, merci à RFI d'honorer. Un grand joueur comme a été Marc Vivien Foué, une légende pour nous Camerounais, et voilà, c'est magnifique.
Qu'il aurait sans doute gagné, lui, Marc Vivien Foué, s'il avait existé.
S'il avait joué.
Deux fois champion de France, je pense qu'il était...
Ouais. Un jour, on pourra imaginer sur chaque saison d'avant la création du prix, les Moustapha Dalleb, les Georges Ouéa.
Je pense que les Algériens en auraient eu d'autres aussi.
Ouais. Bah, oui.
Et pour terminer, donc Hakimi, bah, ça serait s'il gagne, ce sera une première pour un joueur du Paris Saint-Germain. Il y avait Serge Aurier, fut un temps qui était pas très loin, mais il a commis un impair qui lui a sans doute sur les réseaux sociaux, qui lui a sans doute coûté beaucoup beaucoup de points. Il y a eu aussi Idrissa Ganagay.
Ganagay, exactement, le Sénégalais. Voilà.
Et puis un petit clin d'œil Yoréfé qui nous écoute et qui dit bah. Hey. Aubameyang, Bentaleb et Hakimi, c'est mon trio aussi.
Et oui, parce qu'il continue à observer le football, le ref. Oui. En tout cas, rendez-vous dans Radio Foot avec le lauréat, et ça sera le 13 mai prochain. On garde le secret jusque-là, Christophe Jousset, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Même nous, on ne le sait pas.
Mais on se prépare. Non,
on ne le sait pas, on a découvert. Comme les auditeurs, bien sûr, le trio. Moi, je ne connaissais pas le trio.
Mais vous savez, la radio, c'est ça aussi. C'est la spontanéité, n'est-ce pas,
magnifique.
Hervé? Donc, on voulait que vous réagissiez, que vous puissiez interférer entre vous grâce à la révélation des noms en direct. Merci beaucoup, Christophe.
À bientôt pour le verdict.
Voilà, exactement. On continue dans Radio Foot International. Tiens, on va dans la ville où, justement, joue, et même ce soir, Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille sur son 31, nous sommes le 2 mai, mais c'est sur son 31, le port méditerranéen s'est réveillé pavoisé aux couleurs de son club, du bleu et blanc partout, comme sur les épaules des supporters. Bien sûr, une soirée, grande soirée, les attend, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent. Car l'OM jouera donc une demi-finale européenne, celle de Ligue Europa, la petite coupe d'Europe, face à l'Atalanta Bergame. Une soirée qui s'annonce haute en couleurs dans le Vélodrome, où vous l'avez entendu, il y a ces virages qui se répondent, qui donnent un peu des frissons à tout le monde. Une ambiance surchauffée dans le stade, peut-être pas autour du stade. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Vous avez droit à une météo hivernale aussi moche qu'à Paris, je crois.
Une météo épouvantable, vous voulez dire. Il y a un vent à décorner les bœufs, il pleut depuis ce matin, 10 degrés, un mistral à décorner les bœufs, plus précisément, effectivement. météo épouvantable, mais un petit coin de bleu et de blanc depuis quelques heures, depuis que les supporters, ça y est, se rendent vers le stade Vélodrome avec leurs écharpes, leurs maillots évidemment, aux couleurs du club. Ça contraste pas mal avec d'abord la journée d'hier, c'était férié, pas un chat dans les rues, et puis même le début de matinée, on avait du mal à sentir qu'on était au matin d'un grand rendez-vous européen, d'une demi-finale européenne pour Marseille. Mais ça y est, hein, je vous rassure, le volcan olympien se réveille, la ville bouillonne. On est à 2h30 du coup d'envoi et on sent que ça monte et que ça monte bien ici, auprès du stade Vélodrome.
Et je peux vous dire que Thomas, il s'y connaît parce qu'il a suivi l'épopée lensoise à Lens, avec une ville qui aime le foot et qui sent le foot. Donc, vous n'êtes pas trop dépaysé, hein, Thomas, pour ce qui est de villes qui aiment le foot.
Ah bah, c'est pas exactement le même, même public, mais il y a la même chaleur, on va dire. Voilà.
Alors Thomas, cet OM brille donc notamment par son buteur, on vient d'en parler, vous avez évidemment suivi, hein, et on le connaît bien à RFI, Pierre-Emerick Aubameyang, il est donc sur le podium du prix Marc-Vivien Fouet. Comment le considère-t-on, comment le voit-on sur la Canebière? Il y a l'ombre quand même d'un autre joueur africain qui peut-être le gêne un peu, en tout cas qui fait interférence, c'est évidemment un certain Dédé. Hein, je crois que vous savez tous de qui je parle, Didier Drogba, le Blues. Et ce n'est pas encore gagné, vous allez l'entendre. Thomas, vous avez rencontré un de nos confrères, Michel Aliaga. Il est de France Télé et il suit l'OM depuis 30 ans.
Forcément, la Côte d'Amour n'est pas la même. Pourquoi ? Parce que Didier Drogba, quand il arrive, il est quasiment inconnu. Il vient de Guingamp. Et puis tout de suite, il montre son amour à l'OM. Il performe tout de suite. Donc, il est exceptionnel. Il communie avec le public. Alors que les débuts de Pierre-Emerick Aubameyang sont plutôt difficiles. Il y a une élimination en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Même si ce jour-là, il réalise un doublé. Il n'est pas très performant en Ligue 1. Il a plutôt une attitude nonchalante sur le terrain alors que Didier Drogba était un guerrier. Et puis Pierre-Emerick Aubameyang touche un salaire considérable. Il vient de Chelsea, Barcelone, Dortmund, Arsenal. Il avait donc un passé pour lui et donc il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes alors qu'il n'y en avait pas vraiment autour de Didier Drogba. Ça a été une surprise.
Apprécié avec quelques bémols du côté de la Canebière, Pierre-Emerick Aubameyang, Thomas ?
Non, j'irai pas jusque-là non plus. C'est juste que pour faire la comparaison avec Drogba, et c'était l'objet de la question posée à notre confrère, Pierre-Emerick Aubameyang, pour l'instant, est un petit cran en dessous. En revanche, quand vous demandez aux supporters, exactement, quand vous demandez aux supporters qui est le joueur, comme il y a 20 ans, Drogba avait porté l'OM, qui est le joueur qui pourrait les porter cette année jusqu'à la finale de Ligue Europa, voire mieux, ils vous citent tous, évidemment, directement Pierre-Emerick Aubameyang. C'est de très loin le meilleur buteur de l'équipe, 27 buts toutes compétitions confondues, et puis surtout il fait un petit peu tout seul, Aubameyang, ce confrère de France Télévisions, dans un autre extrait de l'interview, expliquait par exemple que c'était un peu d'ailleurs la même situation qu'avait connu Drogba, c'est-à-dire que c'est le joueur qui un petit peu tout seul fait la différence avec un environnement qui est pas mauvais, mais qui est pas aussi qui n'est pas non plus le collectif olympien, voilà, on va dire, n'est pas le meilleur de ces 10-20 dernières années. Donc pour résumer, il est quand même très apprécié, très très apprécié, Pierre-Emerick Aubameyang. Il est juste un peu en dessous pour l'instant de la cote d'amour de Didier Drogba.
De la figure, du symbole, hein, qu'est Didier Drogba. Benjamin, ce soir, évidemment, on attend beaucoup de lui parce qu'il est le meilleur buteur de la Ligue Europa, parce que ce soir, c'est un match essentiel pour l'OM, c'est-à-dire il faut marquer les esprits ce soir dans le stade. On se méfie d'un match retour, là, qui ne sera pas à la maison.
Mais surtout que l'OM au match retour, l'OM ne sait pas voyager déjà. On l'a vu en Europa League, on a vu contre Villarreal où c'est passé de très, 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 très peu. Et est-ce que finalement ce match aller de le jouer à domicile, pour moi, ça peut être un handicap parce que si tu ne mets pas 2-3 buts, je ne sais pas comment tu vas réussir à te qualifier.
On se souvient quand même avec Villarreal.
Oui, avec Villarreal, c'est passé de très, très peu. Hein. Et cette équipe aussi, pour moi, au-delà du fait qu'elle ait réussi à gagner et qu'elle soit en demi-finale de la Ligue Europa, Le contenu, pour moi, c'est moyen. Pour une équipe comme l'OM, qui a connu des grands joueurs, qui a connu des belles années, on voit que c'est une équipe qui joue beaucoup sur la hargne. C'est-à-dire qui est portée par les 60 000 personnes qui viendront au stade. Mais à un certain niveau de la compétition, quand vous arrivez en demi-finale, j'ai peur que ce soit très peu pour passer à l'étape de la finale. En plus que vous aurez un adversaire quand même qui vient
juste d'éliminer Liverpool.
Qui est très, 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 très fort.
Hervé, Pierre-Emerick Aubameyang, ce soir, il faut que ce soit l'homme lige de la rencontre.
Là, il n'y a pas tellement le choix. Hein. Il n'y en a pas 50 qui sont capables de marquer des buts.
Quand même, on compte sur lui et il est là, finalement. Il est là contre le Benfica, il est là contre la Real Sociedad. Il est là, en plus.
Ah oui, tout à fait. Alors moi, j'ai un autre joueur, j'attends énormément ce soir, pour tout vous dire, c'est Ismaïl Assar. C'est Ismaïl Assar.
De retour.
Oui, il est de retour. Hein. Il est rentré la dernière fois, quelques minutes contre Lens. Mais ce n'est pas un joueur, si vous voulez, qui a une constance énorme, qui est capable de vous faire 50 matchs de suite très, très haut niveau. Mais en revanche, il est capable de sortir des grands matchs.
Des fulgurances.
Je l'ai vu souvent avec le Sénégal. Je me souviens quand Sadio Mané était absent en Coupe du Monde, j'avais dit le Sénégal ira loin seulement si Ismaïl Assar est fort, parce qu'il a cette capacité à faire mal à l'adversaire. Il peut marquer des buts. Bon, il n'en met pas énormément, mais en tout cas, il peut les déstabiliser par sa puissance physique. Et en plus, c'est un bosseur. C'est-à-dire qu'il est capable. D'ailleurs, son meilleur match, il l'a fait quasiment contre le Brésil, à l'époque où Vinicius était en feu avec le Sénégal, et où il l'avait éteint. Parce qu'on lui avait dit, il faut que tu prennes Vinicius. Il l'avait pris à la culotte. Et en plus, il lui avait fait mal devant. Alors, je pense que lui, il aura un rôle capital. Soit on voit le Ismaïl Assar qu'on a vu depuis le début de saison, mais qui est mi-figue, mi-raisin. Et là, ça va être compliqué. Est-ce parce qu'Aubameyang seul. Est-ce qu'il sera prêt physiquement, ouais. Faudra voir. Mais sinon, s'il est bien remonté, si mentalement on arrive à le piquer, il est capable de sortir quelque chose. Et ce serait une aide supplémentaire à Aubameyang. Parce qu'Aubameyang seul,
bien sûr.
On va dire, ça va être difficile pour lui quand même. À un moment, il faut à la fois avoir les balles. En plus, du côté de l'Atalanta, ils ne sont pas idiots.
Bruno.
Mais moi, le stade joue un tel grand rôle dans le parcours européen de l'OM et il est de plus en plus admiré en Europe. J'entendais encore des confrères anglais qui en débattaient dans un podcast sur cette fascination du stade Vélodrome, du bruit qu'il y a dans ce stade, qui fait oublier un petit peu, pas dire la médiocrité de l'équipe, mais pas loin quand même, parce qu'elle est quand même larguée en championnat, elle n'a pas montré grand-chose, elle a eu beaucoup de blessés.
Et puis qui porte l'équipe, on l'a bien vu au match retour face au Benfica, c'était incroyable.
Après, c'est toujours gênant quand c'est le match aller, on ne pourra pas se rattraper au match retour. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même, on faisait le parallèle entre Drogba et Aubameyang, il y a un énorme parallèle entre les deux saisons. Puisque la saison 2003-2004, l'OM, c'est Alain Perrin qui est entraîneur, il se fait limoger, c'est José Anigo qui débarque un peu à la surprise générale. Ils sont largués en championnat, ils sont 7e, ils finissent 7e en Ligue 1. C'est le classement actuel de l'OM. Donc c'est des situations un peu parallèles. Et effectivement, le rapport d'une saison entre Drogba, qui fait une saison l'OM, qui explose tout, qui crève l'écran, et Aubameyang, qui est dans une trajectoire différente parce qu'il revient en Ligue 1, il est un peu sur la fin de sa carrière, mais il fait une saison extraordinaire en Europe. Et il peut porter cette OM assez loin.
Et Thomas, vous avez rencontré quelques supporters qu'on va entendre, un des fadas du club. Mathieu, Rémi et Bernard, eux, ils veulent aussi y croire.
C'est même pas possibilité, c'est qu'on va en finale. C'est les clubs italiens, chez nous, on a toujours gagné. Que ce soit Bologne, que ce soit l'Inter de Milan, on a toujours gagné. Donc on va les gagner, ceux-là aussi.
On est très excités, on a rechargé les batteries, on est prêt à supporter comme jamais, comme d'habitude.
Il faut qu'ils fassent quand même encore des gros progrès encore. Même nous, comme supporters, on se demande comment on est là encore, en demi-finale. Vous voyez, d'Europa League, on se le demande, nous.
Alors, les raisons d'y croire, Thomas, nos amis de SoFoot en ont listé 20. Donc, ça fait pas mal.
Oh, bah alors, il n'y a pas de raison. Mais ils vont gagner. Donc, on peut annoncer aux auditeurs qu'ils vont gagner.
Vous savez qu'on vous enregistre, Hervé, aussi. Thomas, il y a une chose, c'est que aussi, l'âme européenne dont on a parlé hier soir, d'ailleurs, dans Radio Foot, cette âme européenne de l'équipe, elle est née quand même dans des circonstances dingues. Et c'est un peu toute l'histoire dingue de cette saison de l'OM. C'était là-bas, à Amsterdam, où ils étaient partis sans leur entraîneur qui, le matin du départ, leur dit « je me barre » et c'était le fameux Marcelino. Et il y avait la crise dans le staff de la direction. Et eux, ils vont là-bas et ils commencent une incroyable saison européenne.
Oui, je crois que ça résume leur saison. Ça résume Marseille et toute l'improbabilité qui va avec cette équipe. C'est l'OM. Et quand on parle de probabilité ou d'improbabilité, de raison d'y croire ou de ne pas y croire, je pense qu'il faut quand même, parce que je reviens là-dessus, Benjamin avait commencé un petit peu à en parler, il faut parler de l'adversaire. Et ce soir, clairement, l'OM n'est pas favori face à cette équipe de l'Atalanta Bergame. Jean-Louis Gasset, hier, en conférence de presse d'ailleurs, disait que pour lui, c'était la meilleure équipe des quatre demi-finalistes. Je ne sais pas s'il regarde vraiment les matchs du Bayer Leverkusen. En tout cas, il a été extrêmement élogieux concernant l'Atalanta Bergame, qui fait une super saison. Bon, en Serie A, ils sont sixième, ce n'est pas extraordinaire non plus, mais qui est une équipe régulière, de plus en plus régulière aussi en Coupe d'Europe, qui est en finale de sa Coupe nationale, donc c'est une équipe de Coupe aussi, et qui a extrêmement bien manœuvré, on l'a vu en Ligue Europa, avec l'élimination et la démonstration à Anfield, qui a marqué, ça c'est encore, ce sont encore les mots de Jean-Louis Gasset, qui a marqué l'Europe du foot. C'est vrai que Liverpool, ce jour-là, je parle sous le contrôle de Bruno, avait fait un tout petit peu tourner, mais le match de l'Atalanta avait vraiment impressionné tout le monde.
Cette équipe de la DA, hein, comme on la surnomme, Gasperini a dit, nous, on est fixés sur la Ligue Europa. C'était ce qu'ils ont démontré. Et puis alors, ils sont portés par cette victoire face à Liverpool.
Oui, qui est une victoire un peu bizarre, parce que Liverpool s'est totalement sabordé sur ce match-là. Il y a deux grosses erreurs de son gardien remplaçant, et Liverpool est plombé, il court après marquer ce but pour les sauver un peu.
Ils perdent à domicile 3-0.
Voilà, ce qui n'était pas arrivé depuis une éternité. Mais c'est surtout l'Atalanta. C'est pas le même Atalanta que le PSG a affronté en 2020. C'est une équipe qui est moins joueuse, qui est plus défensive, avec un attaquant, Scamacca, qui a pas mal bougé en Italie, qui était parti en Angleterre à West Ham, où ça n'avait pas marché du tout. Il est revenu en Italie, il s'est refait une santé. Mais de toute façon, l'OM n'était pas favori contre le Benfica, et c'est pas favori contre l'Ajax, et voilà, ils ont passé quand même.
Ça, pas favori, c'est peut-être un statut qui leur plaît aux Marseillais, Benjamin.
Mais c'est mieux, hein, je pense, hein, pour aborder les matchs. Hein. Ça fait un peu
dans les têtes.
Descendre la pression, mais...
Oh, et puis vu que c'est une équipe qui est, parce que ça fait un peu de briquet de broc par cette équipe marseillaise aujourd'hui.
On a vu l'autre jour contre le Benfica, avec les gamins qui
rentraient, on lui met trois piqûres, l'autre, le pauvre Mbemba qui a un genou en difficulté, on va dire, avec un bout d'os qui circule entre ce ménisque, ça fait qu'à tout moment il peut bloquer sa jambe, enfin ça part dans tous les sens, plus des joueurs qui sont bons mais qui sont même pas sur la liste en coupe j'allais dire UEFA, en Ligue Europa.
Pape Gueye,
je pense à lui, ou Onana, mais tout ça, ça fait beaucoup.
Eh bien, on se retrouve tout à l'heure après le match. Et vous avez bien la chance d'aller au Vélodrome, Thomas de Saint-Léger. À tout à l'heure, alors.
Très bien, à tout à l'heure.
Ouvrez-vous.
Bon match à vous aussi devant l'écran.
Ouais.
Oui, j'ai trois couches, Hervé.
Et le Mistral pousse les nuages. Hein. Ça devrait s'éclaircir du côté ciel. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous. Et rendez-vous donc après le match. Il faut le savoir et on en parlera tout à l'heure. Il y a donc un autre match. C'est la Roma qui reçoit le champion d'Allemagne, donc le Bayer Leverkusen. On verra donc ce que donne cette rencontre. On continue. On va parler du Paris Saint-Germain.
Appel de Füllkrug, pas signalé en position de hors-jeu. L'attaquant du Borussia qui a trouvé l'ouverture et qui marque le premier but de la partie dans le dos de la défense parisienne.
Cette défaite, elle est surtout pour Luis Enrique.
Moi, j'ai vu des joueurs qui ont été pris en otage aujourd'hui.
Et ça semble être la balle de la gagne pour le Borussia Dortmund. Écoutez chanter Westfalen Stadion. Ils ont compris les supporters allemands que c'était fait.
Füllkrug, on l'a pas vu du match, il a un ballon, c'est dedans.
Il y avait une ambiance de fou, en jaune et noir cette fois. C'était hier soir dans le grand stade de Dortmund. Ils en ont profité, les joueurs du BVB, ils ont gagné 1-0. Défaite du Paris Saint-Germain. C'était aussi, il y a eu un but de Füllkrug là, à la 36e minute. Alors ce qu'on a vu aussi, c'est la blessure, Lucas Hernandez sortir sur blessure, on vient de l'apprendre, il est forfait pour l'Euro. Ce sont les ligaments du genou gauche cette fois qui sont touchés. À la Coupe du Monde, c'était le genou droit. Et là, c'est l'autre genou, le pauvre. Il ne sera pas à l'Euro. En tout cas, cette victoire, les joueurs du BVB l'ont fêté, mais pas trop devant le mur jaune. Et Sébastien Haller a expliqué pourquoi à Cédric de Oliveira.
Sentiment mitigé, partagé. On est quand même satisfait et fier du résultat, surtout devant nos fans dans ce stade. C'est toujours important de commencer avec une victoire sur ces deux matchs. Maintenant, c'est la Champions League et on a deux matchs et il reste encore à faire le job à Paris. Donc le mot d'ordre, je pense encore, c'est humilité. Je pense qu'on a gagné 1-0, mais on n'a pas non plus gagné de manière claire. On n'a pas gagné 5-0. On a fait un très bon match solide en étant très discipliné. Maintenant, voilà, c'est le match retour qui fera la différence, à nous bien nous préparer.
Évidemment, ça sera au Parc des Princes. 90 minutes pour se hisser en finale, pour les uns comme les autres. Et Luis Enrique, l'entraîneur des Parisiens, l'assure, les Parisiens vont se qualifier. Mais ils ont des stats un petit peu contre eux, comme quand ils sont allés d'ailleurs à Barcelone. Là, 32% seulement des équipes qui perdent à l'extérieur arrivent à se qualifier. Est-ce que vous pensez que ces Parisiens vont le faire et comment surtout? Et avec qui, Benjamin?
Moi, je pense qu'ils vont le faire parce que perdre 1-0, pour moi, c'est pas dramatique. La règle du but à l'extérieur n'existe plus. Mm-hmm. Ça aussi, on peut le dire. Ça change littéralement tout. Ils peuvent le faire, surtout si Luis Enrique ne fait pas n'importe quoi, encore une fois. C'est vrai qu'ils remettent déjà les joueurs à leur poste. Moi, je trouve que Mbappé, il faut le repositionner sur ce côté gauche. Il a tout le temps été performant. Il faut
voir Dembélé à droite.
Oui, voir Dembélé à droite, mais surtout, il faut mettre un vrai numéro 9. Quoi. Le match d'hier, Paris s'est pris à son propre piège parce qu'on attendait le PSG proposer de la profondeur face à une équipe de Dortmund. On parlait notamment des deux centraux qui sont un peu lourds, qui ont du mal à se retourner. Mais quand on voit le but de Füllkrug, en fait, à la fin, on a l'impression que Paris s'est pris à son propre piège. L'appel dans le dos, la défense qui est mal alignée, Marquinhos qui couvre. Et Füllkrug, c'est vrai qu'il met un magnifique but. Mais je pense qu'il faut retrouver ça. Il faut retrouver de la solidité aussi défensive parce que Mendes, hier, il a vachement souffert sur ce côté gauche. Et même Hakimi, par moments aussi. Et on a vu des beaux duels sur le côté, mais pour moi... Et puis l'efficacité. L'efficacité parce que malgré que tu sois bougé comme ça dans le match, par moments dominé et que tu réussis à avoir... Allez, ils n'ont pas énormément d'occasions, mais les deux poteaux... Pour Mbappé, c'est malheureux, mais je pense que la frappe d'Hakimi, normalement, avec un peu plus de justesse, d'application, elle doit finir au fond.
Voir celle de Dembélé.
Surtout celle de Dembélé, parce qu'il a le but quasiment...
Il est au point de pénalty, oui.
Ouvert. Mais Dembélé, bon, on sait très bien que c'est pas son fort.
Pas finisseur.
Oui, voilà.
Encore qu'il nous avait démontré le contraire ces derniers matchs. Hervé, vous souriez tout à l'heure quand on disait que Mbappé avait été fantomatique, en tout cas qu'il n'était pas... On attendait beaucoup de lui, comme toujours, bien sûr, parce que ça reste quand même le personnage de cet effectif. Est-ce que vous pensez que c'est peut faire mieux au match retour?
Ah bah peut faire mieux, oui, ça c'est certain.
Mais est-ce que ça n'était pas
certain aussi? Ouais.
Est-ce que ça n'était pas de sa faute hier qu'il avait été mis, non, si on écoute Benjamin, dans des mauvaises conditions?
Ah mais non, mais je pense qu'il a pas été mis dans les meilleures conditions. En revanche, c'est quand même le joueur qui est sur le terrain, donc c'est à lui aussi de trouver des solutions, hein, quitte à sortir même de ce qu'on a pu lui demander. En plus, vous savez, en général, pour les attaquants de pointe comme ça, on les oblige pas à certains déplacements.
On leur laisse une certaine liberté.
Un petit minimum de liberté. Ils sont pas des pions quand même. Heureusement d'ailleurs. Mais si vous regardez bien, donc il a cette frappe sur le poteau, il a cette passe magnifique vers Colomboigny. Normalement, il y a but là-dessus. Et on se dit, quelle passe il a faite. Alors, son positionnement dans l'axe, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que les Allemands, moi, du côté du Paris Saint-Germain, enfin du côté du staff, hein, plus que des joueurs évidemment, ils soient aussi bien en place, aussi matures. Moi, j'ai été vraiment très surpris par cette capacité des Allemands à rester bien en place, à éviter de donner de la profondeur derrière. Donc, ça veut dire qu'un Kylian Mbappé, bah, évidemment, il est beaucoup plus en difficulté quand vous êtes avec 2-3 joueurs autour de vous, avant même que vous receviez la balle. Et surtout, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de vitesse que vous pouvez prendre sur les côtés. Donc, la seule vitesse qu'il pouvait prendre, c'est en la prenant derrière. Par des chevauchées, par exemple de Colomboigny quand il rentre en fin de match, de Dembélé quand il prend la balle, il essaye de faire des trous, qu'il n'a pas fait, mais en tout cas il avait cette possibilité-là. Parce qu'ils les ont attendus très très bas, ils n'ont pas fait de pressing très haut non plus pour essayer de les empêcher, sauf sur quelques actions évidemment classiques, mais sinon ils les ont laissés. Pourquoi? Pour refermer à peu près toutes les zones où les Parisiens auraient pu s'engouffrer. Et là, tout Mbappé que vous êtes, c'est dur. Parce qu'en plus, ce n'est pas un joueur physique au sens qui est capable de la tête de reprendre les balles et des choses comme ça. Ça fait qu'il faut trouver sur des déplacements, sur de la vitesse de déplacement, des zones où vous allez vous retrouver un petit peu seul. Il a réussi quelques fois, mais il n'a pas réussi tout le temps. Mais je pense que c'est lié surtout aussi à l'appréhension du match de l'équipe de Dortmund. Et je ne suis pas certain que du côté du Paris Saint-Germain, on pensait qu'il serait capable de jouer à ce niveau-là. Je parle tactiquement et en restant en place comme ça. Alors que souvent, les Allemands ont cette tendance, même si Ter Ziegler, ce n'est pas l'entraîneur type allemand qui peut partir à l'abordage. Mais il n'empêche qu'ils ont été super bien en place et ils ne s'attendaient peut-être pas à ça non plus.
Bruno, de qui peut venir la lumière finalement du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est de l'entraîneur, de la mise en place? Est-ce que les joueurs doivent se prendre en main?
Moi, je suis admiratif de toutes les excuses que vous trouvez à Mbappé, en fait. Parce qu'à longueur d'année, on ne cesse de dire que Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, qu'il est au niveau de Cristiano Ronaldo et de Messi. Mais eux, on ne leur trouvait pas d'excuses quand ils n'étaient pas bons. Et on le disait, ça pouvait arriver, ça arrive et ça peut arriver qu'Mbappé ne soit pas bon. Mais à un moment donné, si à chaque fois on reporte la faute sur quelqu'un d'autre quand lui
on
n'est
pas
bon,
pas sur les autres,
et qu'il soit avant-centre ou qu'il soit à gauche, pour moi, c'est la même chose. C'est à lui, à un moment donné, s'il n'est pas dans la meilleure situation, il est assez grand, il est champion du monde, il a bientôt 25 ans, il est capable de décrocher, de dire je vais prendre le ballon, je vais essayer de faire quelque chose pour faire basculer la rencontre.
Mais tu sais qu'il a déjà fait ça, Bruno.
C'est ce que font
tous
les grands joueurs.
Quand il décroche comme ça, tu sais qu'il n'est pas bon.
Il l'a fait contre la Real Sociedad. Mais moi, je pense qu'il joue dans l'axe parce que Luis Enrique, il accorde plus d'importance à son équilibre qu'à un déséquilibre avec Mbappé. En plus, ça reste un match aller. S'il fait ça au match retour, ça aurait posé problème. Mais sur un match aller où il faut essayer de ne pas prendre trop de buts, d'essayer de conserver toutes ses chances pour le match retour, ça ne me choque pas. Et surtout, encore une fois, et je suis d'accord avec vous, moi, je suis quand même assez optimiste parce que le PSG a été mauvais à Dortmund. Franchement, il a été mauvais. Il s'est créé quelques occasions, mais il a été mauvais. Mmh. Parce qu'on parle toutes les occasions du Parisien, mais toutes les occasions de Dortmund. Füllkrug a une énorme occasion qu'il bien a sûr. Mis au-dessus. Ouais. Il y a un pénalty qui n'est pas sifflé.
Il y a deux situations qui sauve une...
Exactement. Et malgré tout ça, comme face à Barcelone au match aller, le PSG a encore, encore toutes ses chances. Mmh. Et en plus, il joue le match retour à domicile. Donc pour moi, tu ne peux pas être mauvais comme ça deux fois de suite. C'est pas possible.
Mbappé, aujourd'hui, on le compare à qui, en gros hein. Parce que là, tu parlais du duel Messi-Ronaldo. On disait Vinicius, Haaland ou lui. Et à un moment, on parlait de ce duel qu'on préfigurait entre Haaland et lui. Mais Haaland...
Qui ne vient pas en ce moment.
Qui est en duel de stats. Pas les mêmes joueurs.
Oui, mais qui était quand même en immense difficulté aussi à Manchester City sur la Coupe d'Europe parce qu'il n'a pas réussi à trouver ces espaces-là qui auraient pu lui permettre de faire la différence. Ça n'enlève rien aux qualités d'Haaland, mais qui sont d'autres qualités.
Mais c'est différent, c'est deux joueurs totalement différents.
Bien sûr, c'est
parce
pas les
qu'Haaland, c'est un joueur qui dépend énormément du collectif, c'est un finisseur.
Oui, bien sûr.
Mbappé, c'est un joueur, comme il disait Bruno, capable de décrocher par moment, de faire la décision tout seul.
Mais c'est un finisseur
oui,
aussi.
Oui, parce qu'il a les capacités, il peut éliminer 2-3 joueurs, rentrer dans la surface par son coup de rein, par sa vitesse.
Il se rapproche d'un Vinicius, Mbappé. Vinicius, il n'a pas les mêmes problèmes. Il décroche, il vient chercher, il vient provoquer, il fait la différence.
Il n'avait pas le même rôle. Oui, mais il n'avait pas le même rôle. Quand tu vois le rôle par rapport au Real, la manière de la mise en place tactique du Real n'est pas du tout celle. Oui, mais après, si tu ne mets pas tes joueurs dans les meilleures conditions, enfin, ne mets pas. Tu dis c'est aux joueurs de se mettre. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais à un moment, tu ne peux pas demander à Mbappé de décrocher. Vous avez déjà 3 joueurs qui décrochent et plus personne devant. Alors, à un moment, tu es attaquant de pointe. Tu dois aussi d'être dans ce rôle-là parce que sinon ça sert plus à rien. Sinon tu fuis un peu le combat, tu reviens derrière, mais c'est pas évident.
Les grands joueurs trouvent toujours des solutions, toujours, ou alors c'est pas un grand joueur. S'il trouve pas la solution, c'est que c'est pas un grand joueur. Et cette saison en Ligue des Champions, pour l'instant,
il a marqué combien de buts?
Il est le meilleur buteur.
Il fait une phase de poule où il est pas bon dans le jeu. Il y a la Real Sociedad, je suis entièrement d'accord. Les deux matchs contre le Barça, pour moi, il est pas bon.
Il met un doublé quand même sur le match.
Il met un doublé, mais c'est pas lui qui sonne la révolte. C'est Barcola, c'est Dembélé, c'est Vitinha,
c'est tous ensemble.
Là sur le match d'hier, pour moi, c'est Marquinhos qui fait un sauvetage énormissime et qui sauve toutes les chances du PSG.
Ils sont combien sur Mbappé? Chaque fois qu'il touche la balle, ils sont 2-3.
Mais c'est pareil pour Vinicius.
Les plans, il y a des plans, ça aide les autres.
C'est pareil pour Mossala, c'est pareil pour Ronaldo.
Oui, mais c'est pour
normal.
Ça que c'est aux autres de profiter de cette situation-là.
Demander à Benjamin comment on se sort de 3 attaquants.
C'est aux autres aussi.
Non, mais là, je rejoins parfaitement Bruno. Ce qu'il disait, c'est à lui de trouver des solutions. Là, moi, je suis d'accord avec toi de même changer sa façon de jouer. Par moment, tu ne peux pas uniquement aller dans la profondeur ou uniquement décrocher. Il faut être imprévisible. Mbappé, il est capable de le faire. Il l'a déjà fait. Mais hier, je pense que, est-ce qu'à la fin, moi, la question que je me suis posée, moi, à la fin du match, c'est que, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment donné où Mbappé n'a plus envie du tout de continuer?
C'est sa dernière année pour gagner la Ligue des Champions.
Non, je peux pas y croire.
Moi, je pense qu'il a envie.
Là, Benjamin, je te retire ma voix quand t'as fait 3-0. C'est pas possible. Il veut réussir. Et il réussira.
Bon. Il veut réussir, peut-être qu'il est un peu frustré par certaines non-titularisations. Allez, on se retrouve tout à l'heure.